Des clés pour grandir. Une émission pour les parents d'adolescents proposée par Nathalie Cardon.
Alors le sujet du jour, et bonjour Gaëtan Poisson.
Bonjour Nathalie.
Auteur de ce livre « L'homosexualité au risque de la foi », on peut se dire pourquoi parler et consacrer autant d'émissions sur ce sujet de l'homosexualité. C'est un sujet d'actualité d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez Gaëtan Poisson? On pourrait penser que Nathalie Cardon fait une obsession sur ce thème de l'homosexualité.
Non, alors je vais répondre à votre question. Je ne crois pas, non. Je trouve au contraire, c'est un sujet qui est de toute façon récurrent, on ne peut pas passer à côté aujourd'hui, ou alors c'est vivre sur une île déserte, sans télévision, mais non, c'est malheureusement un sujet récurrent.
C'est une réalité.
Enfin, malheureusement et heureusement, parce que c'est bien qu'on en parle, mais malheureusement parce qu'il est mal abordé, comme on a pu
et
le
voilà,
dire.
Et on en parle beaucoup, voilà, il y a aussi de la pastorale aujourd'hui,
oui,
dans certains diocèses,
oui,
mais est-ce que cette pastorale est bien réalisée sur le terrain?
Ça dépend.
Vous en doutez?
Oui, j'en doute un peu.
Donc, c'est un autre sujet. Oui. Le sujet du jour que je vous ai proposé pour peut-être un peu donner des clés aussi de prudence, de discernement pour tous les parents qui ont des ados ou de grands ados, hein, qui se découvriraient avec cette tendance et cette orientation homosexuelle. Existe, on en parle beaucoup ces derniers temps, des thérapies de conversion. Vous avez vécu vous-même donc cette expérience au Canada, je crois.
Alors,
est-ce que vous pouvez y revenir,
oui,
pour donner un éclairage à tous les parents?
C'est un sujet important puisqu'on en parle beaucoup en ce moment, même dans les médias. En fait, la thérapie de conversion, ça a été deux éléments, ça s'est manifesté pour moi en deux éléments. À la fois, donc, ce que je disais lors des précédentes émissions, les prières d'exorcisme que j'ai vécues pendant 2 ans, mais aussi une retraite de guérison intérieure au Québec. Et il est vrai qu'il faut être très clair, ces thérapies dites de conversion existent effectivement, mais beaucoup aux États-Unis et principalement chez nos frères protestants. Qu'est-ce que c'est? Alors je vais résumer, hein, c'est en fait très simple, c'est pour convertir une personne qui a une attirance pour le même sexe, donc homosexuel, et qui va le faire devenir hétérosexuel. Voilà. Or, il faut être très clair, hein, sur ce sujet, c'est absolument pas possible. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est notre nature. Et je vais rappeler saint Thomas d'Aquin qui dit clairement « la grâce ne supplée pas la nature ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la grâce peut aider à nous cheminer, à nous transformer, à guérir. Mais la nature, elle a changé complètement, c'est l'ordre du miracle. Ce qui veut dire que pour que les personnes homosexuelles deviennent hétérosexuelles, il faudrait un miracle directement de Dieu. Donc ça, il faut être bien clair sur le sujet. Et on a des statistiques, hein, qui sont plus ou moins précises, mais on sait très bien que ce genre de conversion, en fait, ne marche pas, quoi. Il y a très peu de cas qui ont réussi à devenir hétéros et certains sont après revenus. Donc il faut être très précis sur le sujet, sachant que ça engendre énormément de problèmes. Ça peut être un traumatisme, comme moi j'ai pu vivre avec les prières d'exorcisme. Et là, je vais revenir maintenant en France, puisqu'on était parti aux États-Unis, on voyage un petit peu. En France, alors je vais être très clair, ça n'existe pas en tant que un organisme. C'est pas des retraites spécifiques dédiées aux personnes homosexuelles qu'on veut leur permettre de devenir hétérosexuels. Ça n'existe pas. Ça existe, mais pas de manière institutionnalisée ou de manière organisée. C'est parce que vous tombez sur une personne qui n'a pas forcément les compétences ou qui n'a pas forcément les outils pour aider à accompagner une personne homosexuelle, comme ça a pu m'arriver. Vous allez dans une retraite de guérison intérieure, ça existe en France. Vous arrivez avec votre casserole ou vos casseroles parce que vous avez du mal à vivre sur telle chose, parce qu'on a tous nos croix, nos difficultés. Et ça peut être une personne qui, justement, a cette attirance, qui se découvre homosexuelle et qui est, par exemple, dans une famille catholique et qui a du mal à assumer et ne sait pas, par exemple, si ses parents vont accepter ou autre. Donc ça peut être des questionnements en même temps, ce questionnement va faire qu'il va vouloir retirer au plus vite cette écharde, hein, si je puis dire. Et en faisant cette démarche, s'il tombe sur une personne qui est peu avisée, qui a peu de discernement, eh bien, ça peut tourner à des souffrances, à des difficultés, comme des prières d'exorcisme, comme tout un tas de choses qui en soi mériteraient un discernement autre. Là, on revient encore à la formation. Il y a vraiment un manque de formation chez certains prêtres et aussi même laïcs ou religieux. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose à faire dans toute l'institution, dans les séminaires, dans les comités religieux, etc. Et pour éviter ce genre de choses. Mais pour continuer le sujet, il faut bien le dire, c'est qu'actuellement, un sujet de loi est débattu à l'Assemblée nationale, actuellement, pour justement empêcher et interdire ce genre de thérapie de conversion. Alors, moi, pour moi-même qui ai vécu ce genre de choses, je dis effectivement, il y a quelque chose à faire. Il y a bien eu des souffrances, il y a eu des problèmes, et il faut bien le reconnaître. Il ne faut pas se voiler la face, il ne faut pas faire l'autruche, comme
on dit. Au fond, c'est peut-être énormément de maladresse par méconnaissance du sujet.
Je le pense, oui. Moi, mon père spirituel, je sais très bien qu'il n'a pas été dans la malveillance pour me faire du mal. Au contraire, on est rentré ensemble dans ce cheminement, et moi, je faisais confiance, et lui, il pensait bien faire. Mais des fois, on fait du mal en voulant faire du bien. Et c'est un peu, je pense, ce qui s'est passé dans beaucoup de cas. Et je crois qu'il ne faut pas excommunier ou poser l'anathème sur ces gens-là, parce qu'ils ont voulu bien faire. Mais bon, ça n'a pas été bien fait. Et je crois que c'est vraiment à l'Église elle-même de définir, de profiter justement peut-être de cette occasion pour justement parler de l'homosexualité, de développer une véritable pastorale sur ce sujet pour accompagner les personnes homosexuelles et les aider à cheminer vers ce que demande la parole de Dieu et l'Église, c'est-à-dire la chasteté dans la continence. Mais bien sûr, ça peut pas se faire en deux jours.
Vous pensez que cette étape de chasteté dans la continence ne tient pas de l'ordre du surnaturel?
Bien sûr.
Donc c'est une étape particulière qui demande le temps et le cheminement, donc patience avec tous ceux et toutes celles qui se présenteraient aujourd'hui à la porte de nos églises pour ce début de chemin.
Tout à fait.
Qu'est-ce qu'on peut entendre? Qu'est-ce que vous pouvez répondre?
C'est un cheminement qui est comme tout cheminement de conversion et d'évangélisation de notre être par le Christ et l'Esprit Saint. Faut bien penser une chose, c'est que depuis le baptême, on est oint et on est habité par la très sainte Trinité. Et moi, j'avoue que ça me frappe énormément cette phrase de réaliser quand on réalise vraiment qu'on est habité par la sainte Trinité. Et Élisabeth de la Trinité, justement, quand elle a réalisé ça, elle a dit « Ma vie a changé ». Et je crois que vraiment, quand on prend conscience de ça, on prend conscience que notre corps, certes, il est appelé à se décomposer, mais il est appelé à ressusciter aussi. Et il est habité, et nous sommes le temple de l'Esprit Saint, dit saint Paul. Donc on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Et il faut bien sûr, sur cette terre, faire la divine volonté de Dieu. Et pour la faire, eh bien, il faut l'écouter, mais il faut écouter aussi sa parole. Parce que des fois, on me dit, bah oui, mais qu'est-ce qu'on en sait de la volonté de Dieu? On en sait quoi déjà? Parce qu'on a la parole de Dieu. Et après, il y a évidemment l'accompagnement, il y a aussi le discernement spirituel, des retraites, enfin bon. Et voilà, et je pense que c'est très important de noter tout ça. Et je voulais revenir justement sur les thérapies de conversion pour terminer, parce que c'est très dangereux en fait cette loi, parce que cette loi a pour but, certes, elle propose un bien, mais derrière c'est pour ouvrir un bien pour elle, mais un grand mal pour l'Église. Je m'explique. Demain, un jeune qui se découvre homosexuel, il va voir un prêtre. Il lui parle, et si le prêtre, justement, n'est pas averti sur le sujet et n'a pas les notions, les bonnes notions, il pourrait blesser la personne et pourrait porter plainte contre le prêtre parce qu'il n'a pas fait le devoir qu'il devait faire. Donc ça ouvre un questionnement, c'est encore une étape de plus après l'homophobie, c'est-à-dire que on va interdire l'Église, on veut museler l'Église sur certains sujets. On pourra peut-être pas dire que l'acte homosexuel, pas la personne posée qui est pécamineux eh bien, on ne pourra plus le dire parce que ça sera considéré comme homophobe et donc on pourra peut-être aller au tribunal.
Alors peut-être que je ne pourrai plus vous recevoir.
J'en sais rien. Ou alors ils viendront nous chercher tous les deux.
Pour aller en prison.
J'en sais rien.
Vous êtes inquiet concernant peut-être ce projet de loi qui peut être à tout moment présenté dans notre pays ?
Je suis inquiet, oui, mais je pense que c'est que le début, c'est-à-dire que c'est pas demain qu'on va plus pouvoir parler, mais on voit une espèce d'avancée. Il y a quelque chose de crescendo et qui monte plutôt qu'il ne descend dans cette direction. Donc pour l'avenir, je m'inquiète. Je m'inquiète parce que je pense que c'est pas fini. Demain, si une personne se dit choquée par un passage de la Bible pour X raisons, alors on pourra faire une loi et interdire ces passages. On interdira la Bible. Ça renvoie à une triste période de notre histoire de France.
Que nous connaissons bien.
Voilà.
Ah oui. Merci Gaëtan Poisson pour ces quelques interventions. Hein.
Mais je vous remercie à vous, Nathalie.
Je rappelle que vous êtes donc auteur et c'est votre premier livre. D'autres projets d'écriture, je crois.
Oui, tout à fait. Un deuxième livre en cours.
Voilà, et ça reste encore un peu secret.
Oui, un petit peu.
Donc on vous laisse ce secret d'écriture en rappelant qu'on peut se procurer aux éditions Pierre Tecky, et c'est votre témoignage, le témoignage d'un gay qui défend l'Église. Mmh. Le titre est l'homosexualité au risque de la foi. Est-ce que vous pensez avoir véritablement pris des risques avec l'écriture de ce livre ou non ? Très honnêtement.
Honnêtement,
Est-ce que votre vie a changé depuis la parution ?
Oui, elle a changé, c'est sûr. Oui. Mais on prend toujours un risque quand on fait quelque chose, de toute façon. Et je me dis, je pense que c'est important aussi que, en tant que chrétien, on parle des fois de s'engager dans la politique. Pour, eh bien, il faut s'engager sur les sujets qui nous concernent et faire de nos blessures peut-être une force et peut-être de faire là où on a beaucoup péché une vertu. Donc tout doit être transformé en fait. Et je me dis, si ça peut apporter quelque chose, si ça peut aider, si ça peut toucher les cœurs, si ça peut amener des gens à Jésus, enfin, tout est ouvert à la grâce de Dieu.
Donc,
après.
Les parents peuvent aussi prendre contact avec vous, parents ou puis auditeurs. Et grand-père,
oui,
grand-mère,
sûr,
qui sont parfois aussi des oreilles pour écouter. Hein,
bien sûr, oui. Je suis sur Facebook, donc Gaëtan Poisson.
Donc on peut vous trouver, voilà. Donc n'hésitez pas à prendre contact pour toute question avec l'auteur de ce livre, Gaëtan Poisson, et je vous remercie. Et à bientôt, au revoir.
Merci, au revoir Nathalie.